À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Bruno David, biologiste et paléontologue et par ailleurs ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Deuxième épisode, sur la trace des oursins. Bonjour, bonsoir Bruno
bonsoir.
David. On va parler aujourd'hui du fil rouge de votre recherche et à travers l'oursin qui va nous intéresser, sans doute de l'évolution biologique ou de la biologie évolutive, les choses reviennent au même. Mais peut-être faut-il d'abord que je vous explique pourquoi j'ai choisi d'intituler cette série Bruno David, l'homme oursin. C'est pas parce que vous piquez, enfin en tous les cas jusqu'à présent.
J'espère.
Mais c'est d'abord parce que vous y avez consacré une grande partie de votre recherche à ce petit être marin que vous avez étudié de très près depuis les premiers, il y a 130 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, et ce sur plusieurs continents, que vous leur avez même consacré deux travaux universitaires. Un sur les échinides du Crétacé inférieur des Alpes méridionales à l'Université de Franche-Comté. Et puis, en 1985, un doctorat sur leur évolution. Puis il y a un livre aussi, chez CNRS Éditions, Les oursins, messagers de l'évolution. Mais aussi parce que c'est finalement l'oursin un peu à l'image de votre recherche. Pleine de ramifications, de hasards, de sérendipités. Et l'oursin, c'est un peu cet animal surprenant, c'est-à-dire qu'il n'est pas exactement celui qu'on voit, il n'est pas que cet animal piquant, il est absolument fascinant, en tous les cas, j'ose l'espérer pour avoir travaillé, comme vous l'avez fait aussi longtemps sur lui, et il est à multiples facettes. Alors j'aimerais d'abord que vous nous présentiez, je ne sais pas si vous avez envie de nous présenter d'abord l'oursin d'aujourd'hui ou l'oursin il y a 130 millions d'années, à vous de choisir.
Alors on pourrait même remonter à 450 millions d'années si on voulait aller
si vous voulez.
À l'origine. Donc là, ça va faire beaucoup plus que 5 épisodes. Non, plus sérieusement, d'ailleurs, je vais commencer par être un peu plus généraliste et vous parler des échinodermes en général, c'est-à-dire l'espèce de grande famille dans laquelle on va retrouver les oursins, les étoiles de mer, les concombres de mer et quelques autres. Et ces échinodermes, curieusement, ne ressemblent pas du tout à ce que nous sommes, nous, vertébrés, puisqu'on a une symétrie qu'on appelle rayonnante d'ordre 5, c'est-à-dire ça part en étoile, les 5 branches, la forme d'étoile de l'étoile de mer, avec 5 branches. Et pourtant, ce sont nos cousins, ce qui est très curieux. Alors pourquoi ce sont nos cousins? Parce qu'au tout début du développement, quand on a ce qu'on appelle une morula, c'est-à-dire une petite mûre, c'est-à-dire qu'il y a 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, etc. Ça forme une petite mûre, puis ces cellules vont se mettre en couronne et ça va former ce qu'on appelle une blastula dans le développement embryonnaire. Et à ce moment-là, va se former le tube digestif. Il va se former comme une grotte, comme une forme d'invagination qui va venir faire un creux dans cette blastula, un petit peu comme si vous avez un ballon de baudruche qui n'est pas gonflé de manière trop dense, et vous mettez le doigt dedans et ça va faire un creux à l'intérieur. Et ce creux, vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez commencer par la bouche ou vous pouvez commencer par l'anus. Et nous, vertébrés, nous commençons par l'anus, et les oursins aussi. Et c'est ce qui crée un lien de parenté très serré, très fort, entre les échinodermes et les vertébrés et quelques autres. Autrement dit, nous sommes plus proches parents des échinodermes que nous ne le sommes des insectes, des crustacés ou d'autres animaux qui pourraient paraître plus proches des vertébrés. Eh bien non, c'est avec les échinodermes que nous avons une parenté plus forte.
Alors nous sommes cousins donc des échinodermes, peut-être même des oursins, nous avons plus de liens de parenté avec les oursins qu'avec d'autres êtres marins, en particulier les crustacés, dites-vous. Maintenant si on se rapproche des oursins.
Donc un oursin, finalement, comment est-ce qu'on peut le percevoir? Nous, ce qu'on voit, c'est une boule hérissée de piquants. Si on enlève les piquants, on voit une boîte. Cette boîte, elle est faite de plaques, de petites plaques microscopiques, qu'on peut voir quand même à l'œil nu, qui sont jointives les unes avec les autres. C'est un petit peu comme les briques d'une maison, qui vont constituer les murs d'une maison. Ben là, ça, pareil, ça fait la boîte de ce qu'est l'oursin. À l'intérieur, il va y avoir le tube digestif, les organes reproducteurs, il y aura du système nerveux, il y aura de la musculature un petit peu à l'extérieur. Enfin, il y a tout ce qui fait que c'est un être vivant parmi d'autres êtres vivants. Et cette boîte, elle a une forme, une certaine morphologie, et elle a aussi une architecture qui vient de ces plaques. Donc on peut jouer sur l'architecture, la forme des briques, on peut jouer également sur la forme générale de la maison. Et on joue sur les deux et ça crée une diversité gigantesque autour de ce que sont les oursins et la manière dont ils vont vivre, soit fixés sur les rochers, fixés dans les algues ou au contraire, qui vont s'enfouir comme des taupes dans le sédiment.
Est-ce que, Bruno David, les oursins du Crétacé étaient les mêmes que les oursins que nous connaissons ou est-ce qu'ils ont changé?
Alors, au tout début de leur histoire, les oursins avaient énormément de plaques. Dans la suite de leur histoire, ils se sont simplifiés et on se retrouve avec des boîtes qui ont 20 colonnes de plaques seulement. Donc, on se retrouve dans une situation un petit peu différente, une forme de simplification. Mais à partir de là, ceux qu'on a au Crétacé sont déjà organisés autour de 20 colonnes de plaques. Donc, ils ne sont pas si différents que ça des oursins actuels. Si on pouvait les faire revivre et les mettre dans les mers actuelles, ils ne détonneraient pas par rapport au reste de ce qu'on appelle l'échinofaune, c'est-à-dire la diversité des oursins dans les mers actuelles.
J'ai envie de vous laisser parler des oursins, évidemment. D'ailleurs, on a près d'une demi-heure pour ça, Bruno David. Mais j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres depuis que je vous entends parler. C'est à partir du hasard qui a fait que vous avez été amené à vous intéresser aux oursins, qu'est-ce qui, au fond, vous a rendu ce petit être marin aussi fascinant pour avoir travaillé aussi longtemps dessus ?
Alors, ce sont beaucoup d'êtres, puisqu'il y a à peu près 1000 espèces dans les mers actuelles, que les circonstances ont fait qu'il y avait un paléontologue de l'université d'Orsay qui était en année sabbatique à l'Ifremer, à Brest. Et il me dit un jour, bah, tu sais, les oursins sur lesquels tu travailles dans le Crétacé des Alpes du Sud, il y a des formes actuelles dans les abysses du golfe de Gascogne qui ressemblent pas mal à ces formes du Crétacé. Est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir aller les voir ? Et donc, je me suis embarqué sur les bateaux océanographiques de l'Ifremer. J'ai fait deux missions sur les bateaux océanographiques de l'Ifremer. À l'époque, c'était le Jean Charcot. Je me souviens d'une mission qui est partie du Cap Vert vers les Antilles, où je n'ai pas trouvé d'oursin, d'ailleurs. On n'a pas dragué un seul. Et puis, je me suis embarqué de nouveau sur le Charcot, dans le golfe de Gascogne, à un endroit qui s'appelle la plateforme de Mer Yatzeg, ça dira quelque chose au breton, peut-être. C'est à 1000 mètres de profondeur, au large de Brest. On s'est fait brasser pendant 3 semaines, ça a été épouvantable, en pleine tempête d'équinoxe en septembre. Mais j'ai pas été malade spécialement, mais on était quand même bien très très secoués. J'ai ramené assez peu d'oursins là aussi, mais c'était parti. J'ai eu accès aux oursins qui avaient été récoltés dans des missions antérieures. Et puis j'ai eu la chance de trouver ces oursins qui ressemblaient à ceux du Crétacé. C'était une ressemblance totalement superficielle, ça n'avait aucun intérêt évolutif. Mais par contre, ce groupe d'oursins profonds qui ressemble à des petites bouteilles, ça ne ressemble pas du tout à un oursin normal, c'était des petites bouteilles. Et j'ai eu la chance d'avoir à disposition des plus jeunes qui faisaient moins d'un millimètre de long, qui ressemblaient à un oursin normal, jusqu'aux adultes qui font 3 cm, 4 cm, et qui ressemblent à une petite bouteille. Et je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on passe d'une forme d'oursin rond à une forme de bouteille ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où les oursins sont magiques, parce qu'on avait à la fois à notre disposition les plaques, l'architecture, et la morphologie, la forme, comment on passe d'une forme ronde à une forme de bouteille. Et comment finalement, à travers une forme de tectonique des plaques, je retrouvais la tectonique des plaques en quelque sorte, j'ai appelé ça la tectonique des plaques des oursins, on avait des plaques qui changeaient de forme, qui bougeaient les unes par rapport aux autres, et qui finalement arrivaient à basculer et à faire qu'on avait une morphologie qui se transformait complètement. Et dans cette famille d'oursins, dans ce groupe, il y en avait qui ressemblaient à des amphores romaines, toute petite également, mais alors avec une morphologie, avec une sorte de long cou, enfin un truc totalement bizarre. Si je vous mets ça dans la main, jamais vous pensez que c'est un oursin. Ce n'est pas possible. On ne peut pas imaginer que ce soit un oursin. Et ça vit dans les grands fonds océaniques à 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, jusqu'à 7000 mètres de profondeur. Et donc j'ai essayé de comprendre comment se construisaient ces formes et quelle était la relation entre l'évolution et le développement, ce que les scientifiques appellent l'ontogénèse, quelle est la relation entre l'ontogénèse et la phylogénèse, en quoi finalement l'histoire évolutive d'un groupe va s'inscrire dans le développement des formes les plus récentes de ce groupe en question, à savoir les formes actuelles pour ces oursins-là.
Tout en faisant en sorte qu'ils restent oursins, c'est-à-dire finalement quelle est la plus petite chose commune à ces formes amphores ou à ces formes rondes. C'est l'architecture en forme de brique.
C'est d'avoir ces plaques, c'est de toujours avoir derrière ça une symétrie rayonnante d'ordre 5 qui devient complètement masquée, complètement transformée, parce qu'au cours de leur développement individuel, ils se déforment tellement, ils changent tellement de morphologie qu'on ne finit par ne plus voir la symétrie rayonnante d'ordre 5, mais elle est toujours là. Et on la redécouvre à travers ce développement individuel. Alors il faut s'arracher les yeux. Hein. Je me suis vraiment arraché les yeux sur des loupes binoculaires pendant des jours et des jours. Hein, parce que quand vous avez un oursin d'un millimètre de long, vous imaginez ce que ça fait. Hein. C'est plus petit qu'un petit pois. Hein. Et il est très fragile. Il est d'une fragilité incroyable. Il faut lui enlever ses piquants sans le casser. Il faut révéler les plaques, les limites entre les plaques de son squelette, entre ses éléments constitutifs, en faisant tomber une micro-goutte d'acétone dessus. Elle va s'évaporer de manière différentielle. L'acétone va rester un tout petit peu plus longtemps sur les sutures, les limites entre les plaques. Et à ce moment-là, on peut dessiner quand on est sous la loupe binoculaire. J'ai fait ça pendant des jours et des jours, jusqu'à reconstituer tout le cheminement qui menait du tout jeune jusqu'à l'adulte et à comprendre en quoi ces formes, aussi mystérieuses finalement, étaient des oursins normaux, entre guillemets.
Bon, avant que ce soit sur votre table de travail, l'oursin, enfin les oursins que vous avez sélectionnés, disons, pour votre recherche, Bruno David, étaient dans la mer. Vous avez dit tout à l'heure que c'était à des profondeurs importantes, entre 2500 et 7000 mètres de profondeur. Donc avec le Nautil, c'est un sous-marin de l'Ifremer, vous étiez sous l'eau. Avec le Jean Charcot, au départ, je ne sais pas si c'était un bateau ou un cargo ou effectivement déjà un sous-marin.
C'était un bateau de l'Ifremer, mais la plupart du temps, on récolte les oursins profonds, on récolte les faunes profondes avec du chalutage ou du dragage. On n'est pas obligé de descendre en sous-marin pour les récolter. Donc j'ai eu la chance aussi de descendre avec le sous-marin. Mais les chances de récolte sont presque plus fortes quand on fait du dragage ou du chalutage qu'avec un sous-marin, où là, on est plus limité.
D'où mes questions. Comment récoltez-vous les oursins? Ça se passe comment? Vraiment, vraiment physiquement, vraiment concrètement, quand vous êtes sur le bateau, parlons du Jean Charcot, et qu'ils vont chaluter. Qu'est-ce qui se passe? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous orientez la recherche? Est-ce que vous dites, bon, c'est là, on va poser le bateau là, et puis on va aller au fond? Qu'est-ce qui se passe?
Alors d'abord,
emmenez-nous.
D'abord, une mission océanographique, c'est une aventure collective. Il y a toute une équipe de scientifiques à bord qui va travailler sur différents groupes, sur différents sujets qui peuvent être assez divers, assez différents les uns des autres. Donc il faut trouver un compromis. Il y a un chef de mission scientifique qui organise les choses et qui, lui, a posé des points sur une carte pour dire c'est là qu'on va faire des chalutages, des dragages, des carottages, des mesures de la température,
de la salinité. Parce qu'on sait qu'il y en a.
Parce qu'on pense qu'il y en a. Parce que je rappelle qu'on est quand même à plusieurs milliers de mètres de profondeur et qu'on ne voit pas ce qu'il y a au fond, a priori. On peut envoyer des caméras.
Donc on pense qu'il y en a pour quelle raison, par exemple, déjà?
Parce qu'on a déjà une certaine expérience, qu'on sait que telle ou telle espèce vit à telle ou telle profondeur ou dans telle gamme de profondeur, donc la probabilité d'en trouver est quand même assez forte. Maintenant, j'ai fait quand même deux missions océanographiques sur le Jean Charcot où j'ai trouvé très peu de choses. Je crois que j'ai pu trouver trois oursins au total en l'équivalent de 6 semaines de mer. Donc c'était pas d'une rentabilité extraordinaire. Après, j'ai fait d'autres missions où j'ai trouvé des centaines, voire des milliers d'oursins en quelques semaines de mer.
Donc là ça encore, effet du hasard.
La chance, oui.
Et la chance.
Il y a une part de chance. La première mission avec le Charcot, on était à proximité des Canaries, dans cette partie de l'Atlantique, dans la plaine abyssale du Cap-Vert. Et je n'ai pas trouvé d'oursin, alors qu'il était censé en avoir. Et je n'en ai pas trouvé la queue d'un. J'ai trouvé un piquant, un jour. Bon, c'était un peu limite, quand même. Passer 3 semaines sur un bateau pour trouver un piquant d'oursin, franchement, le rendement n'est pas extraordinaire. Hein. Enfin, j'étais encore étudiant à l'époque. Mais...
C'est
un peu frustré.
Revenons sur le bateau, le chef de mission.
Donc vous embarquez. Voilà. Vous avez un chef de mission scientifique qui va dire, voilà, on va faire ça, on va faire telle et telle station. Dans telle station, on va mettre à l'eau tel et tel engin et on va faire tel dragage, par exemple, ou tel chalutage à tel endroit. À ce moment-là, le chalut part à l'eau. Il faut dérouler le chalut au bout d'un long câble. Donc si on est à 3000 mètres de fond, il faut dérouler 5 km de câble. Donc ça prend un certain temps. Une fois que le chalut est au fond, le bateau va avancer doucement. Le chalut va traîner sur le fond, racler le fond. Et on va remonter le chalut, donc on va rembobiner les 5 km de câble. Le chalut va venir à bord, on va le déverser sur le pont et on va regarder ce qui sort de la boue, de la vase, au milieu de tout ça, qu'est-ce qui se trouve. On va trouver des petits escargots, enfin des gastéropodes, des mollusques, d'autres mollusques, des échinodermes, dont des oursins. On va trouver des éponges, on va trouver des tas de choses qu'on va trouver à travers ça. Et ce qui est amusant, et je m'amuse à le faire d'ailleurs dans certaines conférences, c'est que j'ai des reproductions, des gravures, des scientifiques qui étaient à bord du Challenger en 1872, lors du Tour du Monde, d'un des premiers grands bateaux océanographiques, qui était en fait un bateau militaire anglais affrété pour faire de l'océanographie. Et on voit tous ces savants qui se penchent sur un tas de vases sur la plage arrière du bateau. Et j'ai fait les mêmes photos sur un bateau qui s'appelle le Polar Stern, qui est le bateau allemand sur lequel j'ai fait ma dernière campagne océanographique avant de devenir président du muséum. C'était dans l'Antarctique, c'était dans les mers, dans l'océan austral autour de l'Antarctique. J'ai fait les photos, c'est la même photo. La mienne est en couleur, celle du Challenger, c'est une gravure. Mais c'est pareil, on voit les scientifiques qui sont penchés comme des gamins autour de l'arbre de Noël en train de regarder les cadeaux. Ils ont la même attitude, c'est absolument extraordinaire. Et l'engin a pratiquement pas changé, c'est un chalut chalut qu'on appelle un chalut à perche, où il y a un grand filet, il y a une chaîne devant, il y a une perche en bois qui tend le chalut au-dessus, ça fait 3-4 mètres d'ouverture, et ça racle le fond, et on remonte comme ça les organismes à la surface. Et après, c'est livré à la curiosité des scientifiques qui sont complètement déchaînés dès que ça arrive à bord.
Et sur le Nautil, donc là c'est différent puisque c'était un sous-marin, qu'est-ce qui se passe? Comment travaillez-vous?
Le Nautil, c'est complètement différent puisqu'on est trois à bord du Nautil seulement, il y a un pilote, il y a un navigateur, il y a un scientifique. Et vous êtes dans une... Le Nautil est carrossé, mais en fait c'est une sphère qui fait 1,80 m de diamètre. Dans la sphère, il y a tout l'équipement. Donc vous êtes sur une mini-banquette qui fait à peu près 40 cm de large. Vous êtes à plat ventre, face à un hublot. Vous avez les jambes relevées derrière parce que vous ne pouvez pas vous étaler, parce que vous n'avez pas les 1,80 m disponibles à l'intérieur du Nautil. Donc ce n'est pas très très confortable. Le pilote est à côté de vous, vous êtes face à votre hublot et vous restez 8 heures dans le Nautil. Et là, il y a des projecteurs qui s'éclairent une fois que vous êtes arrivé au fond. Donc, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Vous avez des pinces du Nautil qui vous permettent éventuellement de collecter des spécimens. Il y a une sorte de grand coffre. Donc, la pince va basculer, va déposer le spécimen dans le grand coffre. Et c'est un côté totalement magique. Enfin, moi, j'étais vraiment là comme un gamin. Hein.
Mais c'est ce que je voulais vous demander. Cette partie du travail vous a plu?
C'est plus que plus. Moi, j'ai eu aucune réticence. Je suis absolument pas claustrophobe. Donc, j'avais aucune angoisse à me retrouver dans une sphère de 1,80 m de diamètre
avec
deux autres personnes à 2500 mètres de profondeur. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, pratiquement. Enfin, ça a été un moment magique. Mais on voit des choses exceptionnelles, quoi. J'ai vu un poulpe bleu ciel qui se promenait, des amoncellements de grosses araignées de mer, tout ça à 2500 mètres de profondeur. Hein. C'était sur ce qu'on appelle des fumeurs froids, c'est-à-dire, vous savez, il y a les sources hydrothermales au fond des océans qui font des fumeurs qui sont chaudes, des sources qui sont très chaudes, mais à certains endroits, il y a des remontées hydrothermales, mais qui sont à beaucoup plus basse température. Là, on était sur un volcan de boue, alors il faut imaginer un volcan très très aplati, qui fait 10 km de diamètre et qui fait une centaine de mètres de hauteur à peine, donc c'est vraiment une bosse simplement. Il y a des fluides qui remontent à travers ça, ça amène des nutriments, il y a de la faune qui va se développer autour de ça. Cette faune, ça va faire des buissons, des vers qui font jusqu'à un mètre de hauteur, et qui forment comme un buisson blanc. Et il y a des buissons comme ça, il y a des poulpes qui se promènent, il y a des poissons qui se promènent, il y a des oursins qui se promènent aussi. Et c'est ceux-là que j'allais chercher. Il y a des étoiles de mer, il y a toute une faune, beaucoup de loturies, ces concombres de mer aussi, qui sont présents à ces grandes profondeurs. Des loturies nageuses, qui est un peu surprenant, parce qu'on les voit d'habitude sur le fond des mers. Il y en a qui font penser à Isadora Duncan, à la danse des voiles, avec ces loturies transparentes de couleur rouge qui sont magnifiques et qui flottent, enfin qui nagent au-dessus du fond en faisant onduler des voiles, comme des voiles qui sont des sortes d'appendices de leur corps. Enfin, c'est un spectacle assez extraordinaire quand même.
Est-ce que vous en avez besoin pour votre recherche, de faire ce genre de mission océanographique, ou est-ce que c'est un bonus, un plaisir supplémentaire, mais dont vous pourriez vous passer, dont certains de vos collègues se passent?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur les collections existantes, mais il faut que quelqu'un fasse la mission. On peut s'appuyer sur des retours de mission. Je n'ai pas passé ma vie à faire des missions océanographiques. J'ai aussi travaillé sur du matériel récolté par d'autres lors d'autres missions. Donc on peut s'en passer pro parte. Maintenant, c'est important de se rendre compte aussi de ce qu'on voit sur le terrain. C'est la raison pour laquelle on va sur le terrain quand on fait des sciences de la Terre, comme quand on fait des sciences de la vie. C'est pour se rendre compte aussi physiquement de la réalité des choses. On ne voit pas la même chose si on est sur le terrain et si on n'est pas sur le terrain. Sinon, on pourrait tout faire de manière virtuelle, surtout aujourd'hui. Donc c'est pas possible de le faire de manière virtuelle. Il faut absolument qu'on voit les choses. Et l'avantage du Nautil, c'est qu'on est vraiment au contact de la faune. On voit vraiment comment la faune vit. Il y a eu des découvertes assez exceptionnelles qui ont été faites grâce aux sous-marins. Y compris chez les oursins. Pas par moi, par d'autres, mais y compris chez les oursins.
Vous disiez, Bruno David, qu'il existait aujourd'hui, hein, pas il y a 130 millions d'années, mais il existait aujourd'hui à peu près 1000 espèces d'oursins. Très différentes les unes des autres, c'est pas tous les mêmes, hein, les oursins, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On peut les ranger dans deux groupes, il y a les groupes des oursins réguliers, puis il y a les groupes des oursins irréguliers, c'est ça?
Oui, très schématiquement on peut faire ça. Il y a les oursins réguliers, donc c'est ceux qui sont sur lesquels on se pique les pieds. Si vous enlevez les piquants, vous avez une sorte de sphère ou d'hémisphère, et vous revoyez un motif en étoile, quand vous les regardez vu de dessus, une étoile rayonnante à 5 branches. Bon, ça c'est l'oursin classique. À partir de là, vous imaginez que vous pouvez déformer, comme je l'ai étudié chez ces oursins en forme de bouteille, vous pouvez plus ou moins déformer finalement cette symétrie rayonnante au cours du développement de l'oursin, qui va vous donner des morphologies différentes qui vont s'écarter de la symétrie rayonnante d'origine. Les juvéniles sont tous à symétrie rayonnante d'origine, régulières, des petites sphères ou des hémisphères. Et puis, au fur et à mesure du développement, ils vont se déformer plus ou moins. Et ça permet en fait une migration de la bouche vers l'avant, ça va permettre une migration de l'anus vers l'arrière, donc les choses vont se séparer. Et pourquoi il y a cette migration de l'anus vers l'arrière notamment? Parce que chez les oursins réguliers, l'anus, il émerge au sein des zones respiratoires. Donc vous voyez, c'est pas très pratique. Non. Et si vous avez l'anus vers l'arrière, vous dégagez les zones respiratoires, et c'est plutôt mieux pour l'oursin. C'est plus important encore pour ces oursins irréguliers dont la plupart vivent enfouis dans le sédiment et qui vont passer leur vie à avaler du sédiment et recracher du sédiment en abondance. Donc ils ont beaucoup de déjections et c'est très ennuyeux d'avoir cette déjection dans ses poumons. Hein, en gros, c'est pas des poumons chez les oursins, mais ça revient à ça. Et donc ils acquièrent cette symétrie irrégulière, une symétrie qui devient bilatérale avec une droite et une gauche, un avant, un arrière, et ils se déplacent de manière unidirectionnelle et pas de manière polydirectionnelle. Ils changent complètement et ça a créé une diversité énorme. À partir du moment où dans l'évolution, on est au début du Jurassique, il y a 180 millions d'années, ces morphologies apparaissent, ça va créer toute la diversité des oursins qu'on a encore aujourd'hui, qui est bien plus divers. Ces oursins sont bien plus divers dans les formes qui vivent fouisseuses chez les oursins irréguliers que chez les oursins réguliers. Il y en a qui sont aplatis, qu'on appelle des dollars des sables, qui vivent dans des environnements très agités, sur des plages où il y a des rouleaux dans les vagues et ils arrivent à être stabilisés là-dedans. Il n'y en a pas en Europe, mais il y en a sur tous les autres continents. Il y en a énormément qui vivent enfouis comme des taupes ou des vers de terre. Il y en a beaucoup en France, hein. Simplement on ne les voit pas parce qu'ils sont enfouis. On peut éventuellement trouver des squelettes après des grandes tempêtes, en Bretagne par exemple, où il y en a aussi beaucoup en Méditerranée, mais on ne les voit pas. Il y en a qui sont gros comme des petits pois, qui sont microscopiques, qui vivent entre les grains de sable. Et puis chez les réguliers, il y a des formes bizarres, il y a des oursins mous, dont les plaques ne sont pas tout à fait jointives, c'est-à-dire que quand ils sont dans l'eau, ils sont gonflés, ils vont former vraiment un dôme. Et puis quand on les sort de l'eau, ils vont s'aplatir. Et dans le golfe de Gascogne, des pêcheurs avaient l'habitude d'en récolter, et ils les appellent toujours d'ailleurs, des bérets basques.
Parce que c'est vraiment le diamètre d'un béret basque.
Ah, ça, le diamètre d'un béret basque.
C'est 20 cm.
Ouais, c'est des oursins qui ont la taille d'une grosse assiette. Et on les appelle des bérets basques.
Et vous parlez des petits pois, ça me fait penser non pas à un oursin, mais à un crabe. Je crois que dans les Caraïbes, vous vous êtes attaché aux relations entre un crabe petit pois et un oursin, l'oursin Mehoma. C'est
Mehoma,
ça, l'oursin
oui.
Mehoma. Je fais attention à ce que je dis. L'oursin Mehoma. Et alors, le crabe petit pois maltraite l'oursin Mehoma?
Oui, le crabe petit pois, ce sont les mêmes crabes que l'on va trouver dans les moules, des fois, quand on mange des moules. Alors, je vous ai déjà parlé des moules à propos des bryozoaires de mon enfance, mais cette fois, c'est les crabes petit pois, c'est le même groupe de crabes. Et il y a des crabes qui sont parasites des oursins. Alors, c'est des crabes qui sont très méchants, parce qu'ils sont tout petits. Hein. Les Mehoma sont des gros oursins irréguliers qui vivent enfouis dans le sédiment des lagons, dans le sable des lagons. Ils labourent les lagons. Ils participent beaucoup à l'oxygénation du lagon, à l'oxygénation du fond du lagon. Ils sont gros comme des melons, pratiquement. Donc ils sont vraiment assez, assez gros comme oursins. Et ces petits crabes microscopiques vont vivre entre leurs piquants et ils vont leur brouter l'épithélium, c'est-à-dire la peau. Mais ils leur font des dégâts considérables. Et l'oursin, des fois, a du mal à cicatriser. Ça peut aller jusqu'à des perforations du squelette de l'oursin. On a fait toute une étude pour regarder comment fonctionnait cette relation entre l'hôte, l'oursin, et son parasite, le petit crabe. On a pu montrer que le parasite avait une influence sur la capacité de reproduction de l'oursin, c'est-à-dire que plus il y avait de parasites, moins il se reproduisait bien. Il y avait une diminution de l'effort reproducteur des oursins notamment. On a pu montrer que les crabes changeaient d'oursin. Alors qu'on a fait des expériences incroyables, on a attaché des petits flotteurs de pêche, enfin des petits bouchons de pêche de couleur, sur lesquels on écrivait des numéros, on mettait un élastique autour de l'oursin, un fil de pêche, le petit bouchon au bout, on enlevait tous les crabes de l'oursin. On relâchait l'oursin, 48 heures après, on allait les rechercher. Alors, comme ils sont enfouis, heureusement, on avait mis des petits ballons qui flottaient au-dessus de l'oursin, 20 cm au-dessus de l'oursin, on retrouvait, on grattait là où se devait se trouver l'oursin, on regardait, et il avait retrouvé des crabes. Donc, ça veut dire que les crabes passaient d'un oursin à l'autre, qui se promenaient d'un oursin à l'autre. On a fait des équipes de foot avec les crabes. On les a numérotés, avec des petites couleurs également, qu'on a collé, des petites pastilles microscopiques qu'on collait sur les crabes. Et on mettait deux oursins côte à côte dans le lagon, hein, tout ça in natura, hein, pas en aquarium. Hein. Et on regardait comment les oursins échangeaient leurs crabes, si les équipes passaient d'un oursin à l'autre. Donc on a fait toutes sortes d'expériences, on s'est amusé. Bon,
en fait, là,
c'est
plus pour en apprendre sur le crabe, en l'occurrence, que sur l'oursin, non ?
Ça apprend sur les deux, parce que l'oursin, bien sûr, on le connaissait, ça apprend plus sur le crabe que sur l'oursin, mais c'était vraiment pour comprendre comment fonctionnait cette relation symbiotique, qui est une relation parasitaire, entre le crabe et l'oursin. Puis on a fait des tas d'études de génétique aussi, ce qui m'a donné la... permis de faire une grande mission dans les Caraïbes sur un catamaran avec Skipper pendant 30 jours entre les îles Vierges et les îles Grenadines, où on a ramassé des oursins et des crabes dans toutes les petites Antilles pour essayer de voir comment se construisait la différenciation génétique chez les oursins et chez les crabes. Et on s'est aperçu que ce n'était pas la même et que les crabes étaient plus différenciés que les oursins. Donc enfin, on est dans des sujets de coévolution qui deviennent un peu techniques, mais pour bien comprendre comment tout ça fonctionne.
C'est comprendre comment tout ça fonctionne, Bruno David, mais c'est aussi comprendre en quoi les oursins sont, comme vous l'écrivez dans ce petit ouvrage, des messagers de l'évolution, ou pour mieux comprendre à la fois l'évolution du vivant et l'évolution de la biodiversité. On n'imagine pas qu'à partir de l'oursin, nous néophytes que nous sommes, qui vous écoutez parler, on n'imagine pas qu'à travers l'oursin, en fait, on a trait à cette biodiversité. Pas seulement parce qu'il y a 1000 espèces, pas seulement parce que c'est un animal qui a grandi dans le temps et qui a duré dans le temps, mais aussi par ce que vous dites de son autogénèse, de sa phylogénèse. C'est ça, en fait. C'est quand on comprend comment fonctionne l'oursin, on a accès à un mode de fonctionnement de la biodiversité de la Terre. Enfin, en l'occurrence de la mer, mais ça revient au même.
Oui, mais c'est exactement ça. Vous avez prononcé les bons mots. C'est-à-dire que l'oursin est une formidable souris blanche. Réellement. Et qu'à partir de la manière dont on va étudier les relations entre son autogénèse et sa phylogénèse, son développement et son évolution, on va comprendre les mécanismes de l'évolution qui sont derrière. Comment l'évolution fonctionne. Et c'est ça qui a fait l'objet d'une grande partie de ma carrière au CNRS, c'est d'essayer de comprendre les processus évolutifs, la manière dont l'évolution fonctionnait, comment elle avait fonctionné dans le passé, comment elle continue de fonctionner aujourd'hui. Et l'oursin, pour ça, est un très bon modèle pour comprendre ces mécanismes. Et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps sur l'oursin, au-delà du fait qu'il y en a beaucoup et qu'il y a beaucoup de sortes d'oursins à étudier, ne serait-ce que pour décrire cette biodiversité. Je pourrais vous parler en longueur des oursins de l'océan austral qui sont bien plus abondants que ce qu'on pourrait penser, par exemple.
Est-ce que vous avez un préféré ?
Alors, on revient toujours à ses premières amours, vous savez. Donc, mon préféré, ça va être Portalesia, qui est cet oursin en forme de bouteille que j'ai commencé d'étudier quand j'étais encore étudiant et qui m'a pas vraiment quitté.
Et est-ce que vous arrivez à en manger ?
Alors, normalement, on ne mange pas son outil de travail, si j'ai l'habitude de répondre. ça m'est arrivé. Alors, je suis pas très attiré par les gouillodés non plus, mais ça m'est arrivé, alors de manière très très snob, de manger des oursins en Antarctique, dans les eaux très froides de l'Antarctique, parce qu'ils sont justement assez peu iodés. Ils ont un goût très fin. Et je me souviens de dissections d'oursins avec un collègue où on disséquait dans un conteneur dans la cale de l'Astrolabe et où on avait une bouteille de Chablis et on disséquait les oursins en même temps. Et qu'on devait mettre des gonades dans de l'azote liquide pour faire des études de génétique, et que parallèlement, comme il y avait beaucoup de déchets, on mangeait le reste et on buvait un coup de Chablis en même temps. Je ne vous dis pas dans quel état on a pu finir. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, bien sûr. En tant que président du muséum, jamais je me serais permis ça.
Bien sûr, et d'ailleurs, vous mettez quand même un coup sérieux dans l'idée reçue ou dans l'image d'Épinal du chercheur dans son laboratoire avec ses grosses lunettes ou avec son microscope pour étudier. C'est aussi ça, vous nous l'avez expliqué, parce qu'il a fallu disséquer après le petit animal. Mais enfin, ça n'est pas que ça, on l'aura compris. Merci Bruno David. On se retrouve pour l'épisode 3 de cet À Voix Nue. Nous parlerons, puisqu'on a commencé de le faire grâce à l'oursin, nous parlerons de la biodiversité, tissu vivant de la planète. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Benjamin Thiot, réalisation Charlotte Roux, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.